Hey, les rappeurs, vous pouvez trembler. C'est la gay mafia dont je suis l'avocat.
This is the fucking gay mafia, my man.
Rap de PD, c'est du rap de PD. Tant pis si je déçois papa, tant pis si je déçois pépé. Rap de PD, c'est du rap de PD. Tant pis si je déçois papa, tant pis si je déçois pépé. Hey, elles sont hardcore et arriérées vos conceptions.
Hardcore.
Comme ces satanées thérapies de conversion.
Hardcore.
T'es bien plus con que le plus con de tes papis. T'en homophobe qui défile en plein Paris. Mort à l'époque où l'arc-en-ciel n'avait pas de succès. L'époque où si tu suçais, tu finissais sur le bûcher. Tous ces fantômes du passé reviennent pour te hanter. Avec l'arrogance d'un rentier et de la violence en concentré. Ils ne pourront plus rentrer, la porte on va la sceller. Tu seras plus jamais sali, plus jamais esselé. Restons libres, insolents même si la l'addition est salée. Nathalie Sorlin, je fais partie de tes alliés. C'est pas les Yakuza, c'est pas la Camorra. C'est pas la MS-13 ni la Cosa Nostra. Tu sais ce que ça coûtera de défier nos soldats. Elle a pas besoin d'aide, mais je plaide en tant qu'avocat de la gay. Mafia, gay, mafia, gay. Mafia, mafia, gay. Mafia, c'est la gay. Mafia, gay, mafia, gay. Mafia, mafia, gay. Mafia, tu désignes des fautifs.
C'était Irascible sur Radio Libertaire. Et maintenant, l'entonnoir. Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, on va continuer avec psychanalyse et politique. Je voudrais aujourd'hui évoquer un auteur qui tente. Y parvient-il vraiment, on ne sait pas, de faire ce rapprochement entre psychanalyse et politique. Et c'est Cornelius Castoriadis. Alors vite, une petite biographie très rapide, ici issue de l'introduction à un article qui intitulait « L'individu privatisé ». Dans le monde diplomatique, un monde diplomatique qui date du février 1998. Décédé le 26 décembre 1997, Cornelius Castoriadis, philosophe et analyste, était l'une des figures les plus fortes de la vie intellectuelle française. Grec de naissance, il est arrivé en 1945 à Paris, où il a animé la revue Socialisme ou Barbarie. En 1968, il publie avec Edgar Morin et Claude Lefort « Mai 68, la brèche ». À la fin des années 1970, il participe à la revue Libre. À côté de son maître ouvrage « L'institution imaginaire de la société », Il est l'auteur d'autres livres fondamentaux, regroupés en une série commencée en 1978, « Les carrefours du labyrinthe ». Et pour mieux le connaître sa pensée, nous vous proposons aujourd'hui une conférence qu'il a fait, un extrait d'une conférence qu'il a fait à Beaubourg, donc dans les années 90, où il évoque donc ce rapprochement. Il parle de pas mal de choses et surtout des concepts auxquels il s'est attaché depuis longtemps, à savoir les concepts en ce qui concerne l'être imaginaire, l'être premier, l'être vivant, l'être psychique, l'être social historique et l'être sujet. Donc ce sont des choses qui sont dont nous n'allons pas nous étendre quant à leur définition. Disons qu'il évoque ici l'être premier, c'est-à-dire la psyché de qui vient au monde, qui consiste en de l'égoïsme pur, ne voulant rien savoir de l'extérieur. Et il évoque donc le développement de l'être humain. L'individu grandissant doit trouver les limites à son désir, la recherche du plaisir, nommer les choses, rôle de socialisation de la mère, le père, la mère nommant justement les choses avec des mots, le père ouvrant un surmoi héréditaire, le père comme père parmi d'autres pères dans une société qui recherche sa propre autonomie, la fin but de l'analyse définissant les névroses comme forme de non-acception et enfin les névroses et psychoses comme forme de non-acception des aspects de la réalité sociale, faisant que le patient entre guillemets fasse la différence entre le fantasme et la réalité sociale et devienne capable de se détacher de lui elle-même et délibérer. Donc accepter l'idée de la castration et de la mort, c'est-à-dire de sa mortalité, et l'autolimitation dans les sociétés, mais avec le fin et le but de l'autonomie individuelle et dans une société autonome elle-même aussi. Alors voilà un peu le propos du son que nous vous proposons ici, sur Radio Libertaire 89,4, la voix sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, émission L'Entonnoir, critique de la psychiatrie.
Je voudrais simplement prendre un point qui se démultipliera au fur et à mesure de l'exposé. Et ce point de départ, si vous voulez, c'est l'apport de la psychanalyse à notre compréhension de la société et de l'histoire, c'est-à-dire ce que j'appelle le social historique. Je pense, pour ma part, comme beaucoup de gens le pensent, mais encore faut-il savoir comment on le pense, et ce qu'on entend par là, que notre regard sur la société, sur l'histoire, sur le social historique, a énormément changé et doit énormément changer en fonction de la découverte de Freud, découverte qui, à ce point de vue, n'était peut-être pas à 100% originale, à 95 ou à 90, peu importe, mais de toute façon, c'est Freud qui lui a donné la puissance, l'impact, l'acuité qui nous oblige à regarder autrement le social historique, c'est-à-dire finalement l'être humain dans toutes ses dimensions.
Le social historique, encore un concept cher à Cornelius Castoriadis.
Alors, quand je parle d'apport de la psychanalyse à cette compréhension du social historique, je n'entends pas du tout les diverses tentatives de psychanalyser la société, de psychanalyser le président de la République, ou même de psychanalyser le président Wilson, chose à laquelle malheureusement Freud lui-même s'était livré, ou de faire des vagues tentatives de psychologie des masses, ou de telles figures ou autres du leader, etc., etc. Je sais bien que Freud lui-même, dans des textes qui sont loin d'être négligeables, qui sont très importants, mais qui sont à prendre avec une grande circonspection, a parlé des problèmes de la société. C'est notamment, bien sûr, déjà d'emblée, Totem et Tabou, qui finalement concerne la fondation de la société elle-même. C'est aussi Psychanalyse collective et analyse du moi, 10 ans plus tard à peu près. C'est aussi Moïse, c'est les textes connus sur l'avenir d'une illusion, le malaise dans la civilisation, etc. Il y a là-dedans des vues qui sont importantes, mais à mon avis, ce n'est pas ça l'apport essentiel du point de vue psychanalytique à la compréhension du socialisme. À mes yeux, cet apport se trouve d'abord dans l'élucidation du processus de formation de l'individu humain et deuxièmement dans l'élucidation et en un sens, je veux dire, une redéfinition de l'idée de l'autonomie humaine, autonomie conçue, ou plutôt qu'on peut concevoir désormais à partir de Freud, de la psychanalyse, non pas comme une idée régulatrice ou un postulat de la raison pratique, mais dont on peut apercevoir les possibilités de réalisation. Dans les deux cas, encore une fois, aussi bien quand il s'agit de l'élucidation de la création de l'individu social que de la question de l'autonomie, il s'agit beaucoup plus, à mon avis, de potentialités effectives qui sont là dans l'œuvre de Freud et dans la psychanalyse que de la lettre des textes de Freud et encore moins peut-être des textes et du travail des épigones. Je dis épigones sans aucune nuance péjorative de ceux qui l'ont suivi. Alors, sur le premier point, c'est-à-dire sur la formation de l'individu, la psychanalyse nous montre d'un côté quelque chose qui est déjà là. C'est Freud quand il dit que l'inconscient ignore le temps, ignore la contradiction, et qu'on peut mener beaucoup plus loin. C'est-à-dire, on nous montre, et ça la pratique analytique le vérifie constamment, du moins si on veut voir et entendre, un noyau de la psyché qui est absolument arationnel, asocial, qui est dominé de part en part par le flux représentatif, ce flux représentatif n'obéissant pas aux lois de la logique usuelle et étant asservi essentiellement à des principes comme le principe du désir, peut-être pas le seul, peu importe, à des principes de régulation de ce monde psychique dont on peut postuler, ça c'est ma thèse fondamentale, et on en trouve déjà dans le texte sur le narcissisme de Freud de 1911 une première formulation, mais lui-même il n'a pas poursuivi dans cette direction. C'est une entité qu'on peut appeler une monade psychique, c'est-à-dire un être psychique, un être vit dans la représentation, l'affect et le désir, mais qui ignore au sens fort du terme, ne veut rien savoir de la réalité, de la logique du monde extérieur et des autres par conséquent. Ce qui revient à dire aussi qu'il est absolument égocentré. Or, cet être, cette monade psychique, est absolument évident que laissée à elle-même, indépendamment même de toute question d'alimentation, fournir, autrefois on rêvait de lancer des enfants sur des îles tropicales inhabité et fertile pour voir ce qui se passerait. Maintenant, on n'a même pas besoin de ça. On fabriquait l'environnement dans lequel on nourrirait l'enfant, le tout bébé. Ben, cet enfant, à mon avis, ce tout bébé, il ne deviendrait même pas psychotique. Il resterait en deçà de la psychotique. Pour devenir psychotique, il faut déjà un bon degré de socialisation. Pas de l'autisme, pas de la psychose habituelle. C'est-à-dire que cette monade psychique, pour sortir d'elle-même, elle ne sort jamais tout à fait, elle doit subir un processus de socialisation pour devenir individu social. Cet individu social, c'est une fabrication sociale, c'est une création sociale. Ce qui n'est pas une création sociale, c'est le noyau psychique monadique. Bon. Comment se fait cette fabrication sociale ? Bon, c'est là-dessus qu'immédiatement intervient l'élucidation psychanalytique, telle qu'elle est déjà dans Freud, dont je ne prétends pas que telle qu'elle est dans Freud, ou chez Mélanie Klein, ou chez Lacan, ou chez Bion, ou chez Pierre Aulagnier, ou peut-être chez mon serviteur, est parfaite, c'est pas le problème. La question, c'est que c'est un champ d'investigation qui est établi, qui reste plein d'apories, d'embûches, de problèmes, etc., mais qui, à mon avis, est absolument incontestable et inoubliable, et qui concerne précisément les particularités de l'accession de ce noyau psychique originaire à la socialité. Alors, bon, je fais une petite parenthèse pour écarter quelque chose qui est parfois dite, et qui est dite notamment par certains philosophes contemporains allemands. C'est, tout ça, c'est très bien. Freud n'a pas tort, mais la psyché a déjà des dispositions de socialisation. Dire que la psyché aurait des dispositions de socialisation, ce serait précisément nier ce qui est le propre du psychique. C'est-à-dire nier cet égocentrisme fondamental, nier la toute-puissance magique de la psyché, nier l'ignorance du temps et l'ignorance de la contradiction, nier la façon absolument aberrante du point de vue de la logique usuelle d'enchaînement des représentations les unes avec les autres, etc. Si on admet que la psyché a des dispositions, des Anlagen, comme on dit en allemand, de socialisation, de devenir un être social, alors on revient, je ne sais pas quelle psychologie, mais en tout cas, on sort carrément de la vue freudienne, même plus généralement psychanalytique, et je crois de la vue tout simplement vraie. Alors, cette formation, vous savez, bon, banalité, tout le monde comment elle se fait. Elle se fait par un premier environnement, et ce premier environnement, il est familial, bien sûr, au sens large. Cette famille n'a pas besoin d'être le couple biologique nucléaire, etc. Je crois qu'il y a encore une ou deux chaises là. Là, il y a des vêtements. Il y a trois chaises là que vous pouvez réquisitionner. Elle peut être n'importe quel type familial. C'est en tout cas une famille. Et ce sera toujours une famille si vous donnez à cette expression au moins le sens qui importe du point de vue psychanalytique, disons pour provoquer, voilà, voir clairement la chose, les familles à embryon, les usines à embryon dans le Brave New World de Huxley, le meilleur des mondes, c'est des familles. De même que les familles, c'est des usines, non pas embryons, mais des usines à individus sociaux. Elles ne sont pas que cela, mais elles sont aussi cela. Alors, ces familles, bien entendu, elles possèdent des traits généraux, transhistoriques, si vous voulez, et puis chaque fois, bien entendu aussi, elles sont particulières suivant l'institution spécifique de la société dont il s'agit. Et évidemment, cette particularité ne peut pas ne pas laisser des traces très importantes sur l'individu qui grandit comme ça. Surgit là-dessus la question, bien sûr, que je ne veux pas discuter pour l'instant, qui reste, laissons-la ouverte, on va discuter tout à l'heure si vous le voulez, moi je ne la considère pas très féconde, c'est la question d'une transhistoricité de l'inconscient, non pas en tant que mode d'être ou en tant que noyau initial, mais en tant que structure donnée, n'est-ce pas? Vous savez que Freud lui-même, je fais une parenthèse, tendez à penser qu'il y a pratiquement un surmoi héréditaire. Vous connaissez les bagarres entre Malinowski et Oheim et les autres freudiens sur le fait de savoir si chez les trop brillantés il y avait ou il n'y avait pas le complexe d'Oedipe, etc., etc. Je crois que ce qu'il y a de transhistorique là-dedans, c'est d'abord, bien entendu, d'un côté, cette nature, osons le mot, de la psyché, que j'ai essayé brièvement de décrire, et de l'autre côté, le fait qu'elle doit être socialisée, et que cette socialisation est forcément une imposition violente sur la psyché de quelque chose qu'elle refuse. Et qu'elle continue à refuser jusqu'à la mort de l'individu adulte, puisque chacun de nous, quel que soit notre âge, nous refusons par exemple, par l'idée que quelqu'un que nous aimons ne nous aime pas, ou que les choses ne vont pas comme nous le voudrions, etc. Et ça, il faut un énorme effort pour que notre moi conscient, notre moi diurne, accepte ce genre de choses. Quelque part, on ne les accepte pas. Moyennant quoi, d'ailleurs, on fait la nuit un rêve où ce désir apparaît, réalisé, contrarié, etc., etc. Bon. Donc, il y a ce fait de la socialisation d'une monade psychique qui est rebelle par essence à tout ce que représente la société, à la logique, au langage, à la réalité qui n'est jamais que la réalité sociale, etc. Et puis, il y a sans doute quelque chose de transhistorique, quand je vais parler du complexe de Oedipe frontalement, qui est la mère ou le tenant lieu, qui est bien entendu la chose la plus fondamentale, et certainement le père ou le tenant lieu, dans le sens que je vais essayer d'expliquer tout de suite. Donc la mère, c'est clair, parenthèse, et ça affecte aussi bien les psychanalystes. Quand les psychanalystes parlent de la mère, ils ont l'air de parler d'une entité qui serait spécifiquement psychanalytique. Or, le rôle de la mère dans l'élevage de l'enfant, en même temps qu'il est psychanalytique, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il tombe sous le psychanalyste, il est aussi et surtout socialhistorique, c'est-à-dire c'est le rôle d'une socialisation, et pour reprendre une expression que j'ai déjà comprise, la mère, c'est pas un mammifère en lactation auprès de l'enfant, la mère, c'est la société entière, plus 3 millions d'années d'hominisation au moins. C'est ça qui est délégué auprès du nouveau-né par cette personne. Bon. Pourquoi de la société? Ben, tout évidemment, toute évidence, parce que la mère parle. Hein, c'est pas une mère. Bon, ou alors, même si elle est sourde-muette, elle a l'équivalent, quelque chose qui joue le rôle de la parole, enfin ça c'est l'exception. Eh bien, parler c'est quoi? Parler c'est en plein dans les significations imaginaires sociales d'un côté, dans le système de logique de la société de l'autre, et c'est tout cela qui est aussitôt entoure l'enfant, qui est imposé à lui, et on pourrait continuer d'ailleurs, parce que c'est des gestes sociaux, des façons de tenir l'enfant, des façons de tenir les objets, etc. Ça, tout ça c'est plus facile. La mère nomme le monde pour l'enfant, et elle lui nomme pas seulement le monde extérieur, elle lui nomme son propre monde, c'est la mère qui lui apprend à nommer. C'est une chose fondamentale qu'a apporté Pierre Aulagnier à la psychanalyse, qui lui apprend à nommer les affects, ses affects. Et on peut ajouter, d'ailleurs, ça s'avère pas pareil, et même à nommer autant qu'ils sont nommables, c'est désir. Donc, il y a ce rôle fantastique de la mère. Et il y a, mais je m'arrête là parce qu'on va pas rentrer dans tous les avatars, il y a deux étapes encore. Il y a le fait que ce dialogue entre la mère et l'enfant, qui au départ se passe sous des multiples figures projectives, introjectives, etc., et qui instaure une atmosphère qu'on appelle fusionnelle, mais même si elle n'est pas fusionnelle, c'est une atmosphère où il n'y a pas vraiment d'altérité de personne, et il faut que ce monde soit rompu par l'intervention d'une tierce instance. Et c'est cette tierce instance que dans les familles que nous connaissons, c'est le père, et on peut s'afficher à bon droit si Malinowski découvre que c'est l'oncle maternel. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et ça aurait pu être, je ne sais pas quoi, dans un état horrible totalitaire, un délégué du KGB auprès de la femme qui a accouché, qui doit jouer le rôle du père. La question n'est pas là. La question, c'est de ne pas laisser l'enfant et la mère se perdre dans ce face-à-face fusionnel, de le casser quelque part, et de dire à l'enfant, la mère n'est pas seulement un objet pour toi, non seulement elle est une personne, et c'est moi qu'elle désire, ou elle l'a maîtrisée. Et il faut compléter, en allant au-delà de Freud, que le père lui-même n'est pas père s'il ne renvoie pas à autre chose que lui-même, c'est-à-dire à la collectivité anonyme des pères. C'est ce que Freud, dans le Totem et Tabou, appelait la communauté des frères, qui, après le meurtre du père, passe un serment entre eux, pourquoi ils conviennent de ne plus se tuer et de ne plus vouloir chacun exclusivement toutes les femmes disponibles. Bon, ça c'est la démocratie initiale de la voix Freud, qui était profondément démocrate, même si elle était pessimiste, et que les épigones ont alors carrément oublié, le Totem et Tabou ne subsiste que le meurtre du père. On ne parle jamais du serment des frères. Or, dans la société, le serment des frères, c'est quoi? C'est que le père n'est pas la source absolue du pouvoir et de l'interdiction, mais que le père est institué en sa place de père en tant qu'il est un parmi d'autres pères qui tous sont réglés par une loi collective, par l'institution de la société. Sous ces conditions, l'enfant est à peu près socialisé dans n'importe quelle société. Là, il faut bien sûr introduire des nuances. Alors, ici, il faut faire une digression. Non, plutôt, il faut donc constater que, à part ce nœud de vipère, si on peut dire, pulsionnel et inconscient, qui est dans ces tréfonds, vous avez encore une chaise. L'individu, tout ce que nous observons de l'individu, tout ce que vous observez de moi, que vous observerez jamais, et tout ce que j'observerai jamais de vous, même de ceux que j'ai sur mon divan, c'est pratiquement de l'individu, c'est-à-dire c'est pratiquement du produit social. L'individu, c'est une partie de la société, c'est un fragment de la société qui se balade, qui parle, qui conduit des voitures, qui fait la guerre, c'est un bout de la société. Ce qui n'est pas réductible à la société, c'est la psyché. D'où l'absurdité de l'opposition constante dans la politique contemporaine, dans la philosophie politique et l'éducation, et depuis très longtemps, enfin depuis le 18e, entre individu et société. C'est une fausse opposition. Si vous dites vive l'individu, vous dites vive la société. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On vit soi-disant le règne de l'individualisme, et où jamais les individus n'ont été moins individuels, peut-être dans le monde moderne en tout cas, qu'aujourd'hui. Ils sont des exemplaires massifs de la télé, de la publicité, de l'éducation publique, de la mode, des habitudes, etc. etc. Peut-être qu'il faut remonter à des tribus primitives pour trouver un degré de conformisme social aussi fort que celui des individus contemporains. Alors, il y a bien sûr des exceptions. Donc, il y a ce côté-là, et ce côté qui est ce côté de la socialité essentielle de l'individu, Il est complètement passé de côté, laissé de côté, passé sous silence dans la philosophie politique et la philosophie généralement des deux derniers siècles, peut-être de plus, en tout cas à partir du moment où il y a cette autre signification à la fois philosophique et imaginaire d'un individu substantiel et autarcique, et qui, soi-disant, passe des contrats avec les autres individus substantiels et autarciques et constitue une société. Or cela, je le dis très brièvement, les anciens le savaient parfaitement, c'est-à-dire ils ne tombaient pas sous le coup de cette illusion. Les anciens Grecs savaient parfaitement que c'est la loi qui forme les individus, il y a Phèdre, Simonide, etc. Et encore, chez Aristote, dans la rhétorique, Aristote dit, il est évident, il le dit comme il dira, je ne sais pas quoi, que les chats ont quatre pattes, il est évident que les jeunes ne peuvent trouver bon que ce que les lois leur ont appris être bon. Et c'est effectivement d'une évidence flagrante. Et même si aujourd'hui les jeunes apprennent qu'ils peuvent ou qu'il faut contester ou transgresser les lois, c'est parce qu'il y a une seconde loi dans la société, n'est-ce pas, qui est l'opposition contre la loi existante. Bon, ils n'inventent pas d'eux-mêmes. Ou quand ils l'inventent, c'est rare, et quand ils l'inventent, c'est autre chose. Là, effectivement, nous dépassons le cadre dans lequel je me situe, qui concerne les 100 000 ans d'histoire humaine, sauf deux points dans cette histoire, la Grèce et l'Europe moderne. Et effectivement, quand ils font cela, peut-être ils manifestent quelque chose d'autre dont on verra à l'heure. Alors, ces décollages de l'être humain par la société continue toute la vie, on est éduqué jusqu'à sa mort, n'est-ce pas ? Même si on l'est de plus en plus difficilement ou de plus en plus mal. Alors, ça, c'est un aspect qui reste en friche à cause de la surdité sociologique des psychanalystes et de la surdité psychanalytique des sociologues, et qui est à élaborer, c'est un appel d'offres, si vous voulez, ceux qui veulent travailler là-dessus, c'est-à-dire comment se fait la socialisation de la psyché dans des types d'institutions différentes. Alors, c'est vrai que la psychanalyse ne s'est occupée surtout, jusqu'ici, que des ratés de ce processus, elle s'est occupée de traiter les malades, les névrosés, surtout à partir du moment des psychotiques, à partir du moment d'ailleurs, il y a eu effectivement une déviation orthopédique dans la psychanalyse, tout de suite, considérant que ces ratés devraient être traités pour les ramener dans une norme sociale, etc. Bon. Et ça, c'est allé de pair avec la négligence de cet aspect seulement fondamental de la formation sociale. Le deuxième point qui est relatif à cela, que je voulais soulever, c'est précisément la question de la fin de l'analyse, de la fin, pas tellement au sens de la terminaison, mais au sens du but, de l'orientation, de la visée. Alors, là-dessus, il y a une série d'énormes malentendus. Parce que on pense, et pas à tort d'ailleurs, empiriquement, que la fin de l'analyse, c'est l'adaptation de l'individu à la réalité. C'est vrai qu'il y a une phrase de Freud, en tout et pour tout, je crois, dans Totem et Tabou, négative d'ailleurs, où il dit que le névrosé se retire du monde des hommes, c'est-à-dire des institutions de la société qui sont la réalité. Et créé collectivement par les hommes, je cite de mémoire, le centre de la citation. Bon, ça, d'abord, dans le tout venant du discours psychanalytique, ça a été oublié, il faut adapter les gens à la réalité. Alors, moi, j'ai jamais vu un patient qui avait besoin d'être adapté à la réalité au sens des sciences physiques, n'est-ce pas ? Il n'a jamais vu un patient, même psychotique, qui ne sache pas que le feu brûle, que s'il saute du cinquième étage, il va se tuer. D'ailleurs, quand des gens névrosés ou psychotiques se suicident, c'est parce qu'ils savent très bien qu'en sautant, ils connaissent la réalité, ils s'adaptent. Ils sautent du cinquième étage pour se faire tuer, se tuer. Bon, jamais un patient psychotique ou névrotique n'ignore la réalité au sens physique. Ce que le patient n'accepte pas en général, bon, il y a beaucoup de choses qu'il n'accepte pas, d'abord il ne s'accepte pas lui-même, et il n'accepte pas les aspects de la réalité sociale qui se présentent à lui. C'est ça son problème. Et en effet, la réalité pour les êtres humains, c'est la réalité sociale. Notre problème n'est pas les pierres, n'est pas l'océan, etc. Notre problème, c'est la société, c'est les uns, les autres, l'État, les autres pays et tout le reste. Or, la fin de l'analyse n'est pas d'adapter purement et simplement le sujet à la réalité sociale existante, je dirais tout le contraire, elle est de lui permettre de faire la distinction entre son fantasme et la réalité. Encore une fois, ces fantasmes ne concernent pas l'étable. Bon, s'il y a un délirant qui pense que les tables sont maléfiques, ça c'est une autre histoire, c'est pas de ça que je pense. Et encore, il ne pense pas que les tables en tant que tables sont maléfiques, n'est-ce pas ? Il pense, par un réel typique, que la conspiration dont l'origine est à la préfecture de police, qui passe par le médecin-chef de l'hôpital, qui s'instrumente en moi, psychanalyste du service, etc., etc., et bien nous avons réussi plus ou moins à faire que les tables font un bruit quand ils passent devant elles. Ce n'est pas les tables d'elles-mêmes qui le font, c'est cette conspiration des autres. Bon, alors cette réalité est une réalité toujours sociale. Dans l'analyse, on essaye, c'est pour ça aussi que c'est idiot le slogan de beaucoup d'analystes, dans l'analyse on ne parle jamais de réalité. Si on ne parlait jamais de réalité en analyse, on ne pourrait jamais parler de fantasme. Parce que le fantasme se définit par sa relation, opposition à la réalité. Bon. Donc, il s'agit, entre autres, dans ce seul point de vue, de rendre possible le sujet de distinguer son fantasme de ses fantasmes, ou son fantasme, de la réalité sociale, de vivre avec son fantasme éventuellement, sans se sentir coupable ou bizarre, mais sachant que c'est son fantasme, que c'est pas la réalité. Mais ce travail implique quoi ? Implique qu'on amène le sujet, et c'est ça l'essentiel de l'analyse, à mettre en cause et en question ses représentations, sa construction du monde et de soi-même. Tout cela allant ensemble, puisqu'évidemment, chacun de nous, notre monde est parti de nous et nous sommes partis de notre monde. C'est pas ça, il n'y a pas de problème. Bon. Cela signifie donc le développement de la capacité chez les sujets de mettre en cause ses représentations, ses normes, et plus généralement, les représentations et les normes dont on découvre au cours de l'analyse généralement, qu'elles sont bien sûr des élaborations du sujet, mais qu'elles contiennent toujours aussi un ingrédient très fort de choses vues, entendues, disait Freud, des choses qui viennent quand même, même si c'est de façon anonyme, de son entourage social. C'est-à-dire quoi ? On vise à aboutir à l'autonomie du sujet, c'est-à-dire dans un état, à un état, où le sujet peut d'une certaine façon se détacher non seulement des autres, bon, des autres, je veux dire, en tant qu'ils exercent réellement fantasmatiquement sur lui une emprise indue, au-delà du réel, bon, mais il peut prendre une distance par rapport à lui-même, par rapport à son propre inconscient, par rapport à ses représentations, par rapport à ses pulsions et son désir, et qu'il peut, en prenant cette distance, réfléchir là-dessus et, tant bien que mal, autant que faire se peut, délibérer. Je m'explique. Bon, il y a le fameux énoncé de Freud dans les nouvelles conférences de la psychanalyse qui dit « Où est Dessart ? Je dois devenir. » Ouais, ça arrive, ça va. Et qui continue d'une façon qui est malencontreuse, à mon avis, parce que Freud parle à la suite de l'assèchement de la Zoïderzé, comme si l'inconscient était un énorme marais, et que, donc de la pure et simple pourriture, et que le travail de l'analyse était de conquérir pour le conscient, par assèchement de ce marais, des portions de plus en plus grandes de territoire. Or, il ne s'agit pas de cela. D'abord, l'inconscient n'est pas un marais, c'est pas une Zoïderzé stagnante. L'inconscient, c'est tout au contraire la source, en un sens, de tout ce que nous avons, de personnel, de singulier. Le conscient, c'est l'imagination radicale, c'est le surgissement perpétuel des représentations et des affects. Assécher l'inconscient, ça veut dire tuer l'être humain. Et on peut dire, à partir de cela précisément, que la phase de Freud devrait être complétée par sa symétrique opposée, c'est-à-dire là où je suis, le ça doit émerger. C'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement les pulsions, les désirs, les représentations inconscientes viennent au jour. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans une année. Alors, si on prend ces deux énoncés ensemble, on voit que finalement, il ne s'agit pas qu'elles sont toutes les deux en un sens partiel, et même fautive. Il ne s'agit ni que le jeu prenne la place du ça, ni que le ça prenne la place du jeu, ce qui donnera un individu totalement délirant. C'est le règne du désir, de Deleuze, de Guattari, etc. C'est le meurtre universel, le règne du désir, ça il faut le réaliser, n'est-ce pas? Passant éventuellement par une série de viols collectifs ou pas collectifs, peu importe. Enfin, c'est ça le règne du désir. Bon. Mais il s'agit d'instaurer une autre relation entre l'instance consciente, ou encore mieux, une instance qui se crée pendant l'analyse, et pas seulement pendant l'analyse, et la psyché de l'individu, la psyché inconsciente. C'est cette autre relation, ce autre type de rapport que j'appelle autonomie, qui n'implique pas qu'on a exilé ou enfoui comme la centrale de Tchernobyl, là, sous des coups de béton, l'inconscient, on le tient bien en dessous, ce qui de toute façon ne peut qu'exploser un jour ou l'autre, ou alors aboutir à une catastrophe, ou à des infirmités de l'individu, mais un rapport dans lequel ce que l'individu est devenu, à savoir une subjectivité réfléchissante et délibérante, est en mesure, autant que faire se peut, de savoir quelles sont ses pulsions et ses désirs, et de pouvoir délibérer là-dessus, c'est-à-dire se dire « Oui, je voudrais bien cela, mais je ne le ferai pas » au bout d'un processus de délibération. Et de même, donc, ça présuppose en un sens aussi, un sujet qui s'est suffisamment dégagé des motivations fantasmatiques pour pouvoir se dire avec forte vraisemblance « Cela » est vrai. Et ce n'est pas simplement « je ne le pense pas parce que ça m'arrange » ou « parce que je voudrais qu'il en soit ainsi » ou « je ne pense pas que tel paragraphe dans B.U. » pour un exemple d'un vélo est faux parce que je déteste celui qui a écrit le livre. « Ben oui, je le déteste, mais il y a un paragraphe qui est très bon. Il faut pouvoir l'admettre. » donc là-dedans, dans la psychanalyse elle-même, quelque chose qui apparaît immédiatement comme une manifestation intégrale du projet d'autonomie tel qu'il s'est développé avec des longues ellipses et régressions, éclipses et régressions, etc., dans le monde gréco-occidental. C'est-à-dire qu'il faut carrément insérer la psychanalyse dans le grand courant philosophique et démocratique, et politique, si vous voulez, au sens politique démocratique, qui a secoué et qui, on peut l'espérer, n'a pas cessé de secouer notre monde. Et je crois que pour ça, quelle que soit la profondeur des insights psychologiques d'écrivains hindous, des mythes de tribus quelconques, la psychanalyse ne pouvait naître que dans cet espace social historique qui présuppose cet héritage, cette culture, et pas seulement du point de vue que Freud a été l'élève de Bruck et de l'horologue viennois. Ça, c'est tout à fait second. L'important, c'est autre chose, c'est la mise en question, la réflexion, et précisément la volonté de dégager le sujet de l'emprise des forces obscures qui sont en lui-même et qui le veulent. Alors, et finalement, quand nous parlons d'une société autonome, quand nous parlons d'une société démocratique, c'est à un tout autre niveau la même chose que nous faisons. Je dirai encore deux mots sur ce. Non, apparemment, je vais dire, donc, il y a aussi une homogénéité essentielle entre la psychanalyse et la politique correctement conçue, la politique démocratique, j'entends pas la profession de M. Mitterrand, voilà. À savoir que les deux sont des activités pratico-poétiques, c'est-à-dire sont pratiques, pratiques signifiant ici non pas la manipulation des coups de tournevis, mais la relation avec un autre être humain qui vise à l'aider à accéder à son autonomie, c'est ça, la pratique, est poétique parce qu'elle est créatrice. Poésie, ça veut dire création. Parce que la vie est créatrice, c'est-à-dire c'est un processus créateur dans lequel le patient se transforme avec l'assistance du psychanalyste, et la politique est un processus créateur parce qu'il vise à faire aboucher la créativité de la collectivité et la faire aboutir à des institutions nouvelles, à des institutions qui soient vraiment démocratiques. Mais il y a plus. Il y a d'un côté la question de l'autonomie et de l'autre côté la question du rapport institué-institué. La question de l'autonomie. J'ai dit tout à l'heure que la psychanalyse vise à créer une subjectivité réfléchissante et délibérante. Mais c'est aussi l'objet de la politique. Si nous voulons une politique démocratique, si nous voulons des institutions démocratiques, ce n'est pas pour la beauté des institutions démocratiques, c'est pour que dans une telle politique, dans une telle collectivité politique, il y ait vraiment des individus qui puissent devenir des subjectivités réfléchissantes et délibérantes. Parce que c'est ça le concret. C'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité d'une société. Nous parlons de l'institution de la société comme de quelque chose qui transcende tous les individus. Et c'est évident. C'est évident. C'est exactement comme le couteau de Jeannot. Vous faites changer tous les Français si les nouveaux sont élevés à la façon des Français, dans les lois françaises, dans la langue française, ils seront des Français. La société française sera la même en un sens. Bon, c'est pas vrai, c'est une société historique qui bouge, c'est presque totalement vrai dans une société traditionnelle primitive. Les individus comptent peu. Mais de l'autre point de vue, la société n'est rien sans ces individus. Elle n'est strictement rien. Elle est quoi? Le code de Hammurabi, quelques ruines. L'écriture cunéiforme ou autre, à partir, elle n'existe plus, elle n'est pas. Pour qu'elle soit, il faut qu'elle soit incarnée dans ces individus. Donc si nous voulons une démocratie, ça c'est parce que nous voulons des individus démocratiques. hein, et non pas des individus tapis, par exemple. Bon. Ou autre. Alors, c'est donc l'objet de la police. La seule chose, ce que la psychanalyse vit, cet objet, évidemment, dans le champ individuel, et dans un rapport intersubjectif, au sens propre du terme, c'est-à-dire entre deux sujets, c'est le seul sens du mot subjectif, alors que la politique, bien entendu, reconnaît la spécificité irréductible du champ social historique, de l'institution comme telle, et...
Radio Libertaire,
et donc, aussi, par rapport à
l'émission L'Entonnoir.
On ne peut concevoir une éthique correcte, dépendable, raisonnable, que comme partie d'une politique, c'est-à-dire d'une vue globale sur la société. Autrement, on reste avec, bon, on pourra en parler tout à l'heure, on reste avec des absurdités aux élaborés. Par exemple, la tentation, je parlais que Kant consacre des pages entières dans, je ne sais plus si c'est dans la métaphysique des mœurs, sur la question de savoir un ami m'a laissé un dépôt, je pourrais le garder sans tout le temps, qu'il y ait des conséquences légales. Est-ce que je dois quand même le lui rendre, supposons que l'ami est mort et qu'il n'y a pas de traces? Faut-il le rendre à ses héritiers? Les pages entières. L'État auquel j'appartiens déclare la guerre à un autre État, il faut que j'aille tuer, si possible, 10 000 individus. Est-ce que ça, c'est éthique ou c'est pas éthique? On ne sait pas. Le pape fait des discours en disant l'avortement, c'est Auschwitz, c'est un nouvel holocauste, etc. Et en même temps, il va voir l'armée polonaise, hein, et il leur dit, vous êtes les chevaliers de la nouvelle Pologne. Bon, alors, en avant, bon, sans problème. Contre qui, je ne sais pas, bon, peut-être supposons que quelqu'un attaquera la Pologne, bon, ça va. Enfin, l'usage des armées, si l'usage des armées était toujours uniquement défensif, il n'y aurait jamais eu de guerre, hein. C'est parce que la moitié du temps, les armées ont des usages défensifs. Bon. Alors, ces problèmes-là, l'éthique, je ne sais pas, je lis la théorie de l'action communicative, je lis le camarade Rawls sur la justice. Le fait qu'on a tué 70 millions de personnes il y a 40 ans, c'est pas un problème éthique, ça n'a rien à voir. Hein. Mais si vous tuez une personne, ça c'est grave. Hein, voilà. Alors là, une inversion de la loi Hegelo-Lévino-Maoriste, n'est-ce pas, de la quantité et de la qualité, tuer en grande quantité, c'est pas grave. Mais ne tuez pas une seule personne, le manque de quantité se transforme en qualité, vous êtes un meurtrier, et ce qui est le plus grave, vous êtes un individu immoral. Bon. C'est pour ça que je dis que c'est ridicule de discuter l'éthique en faisant abstraction du problème politique, du problème de l'institution de la société, du problème de l'orientation de la société, etc. Mais aussi, et je reviens au premier point, c'est que une transformation de la société implique une transformation des individus, et une transformation des individus exige une transformation de la société, c'est-à-dire nous avons le cercle d'une nouvelle création, où les différentes pièces qui constituent le nouveau doivent être posées à peu près ensemble, et ont été posées ensemble dans l'histoire. C'est-à-dire, on a eu d'abord des individus démocratiques pour créer la démocratie, ça reste que les embryons de démocratie qui ont existé, ni qu'il y a eu des démocraties qui ont créé des individus qui étaient pas démocratiques. Non, les deux ont suivi ensemble, c'est ça une fraction historique. Mais aussi, il faut comprendre un autre sens du terme autonomie. Autonomie, ça veut dire, ça ne veut évidemment pas dire ce que les différents soi-disant autonomes, en cassant les bagnoles ou en mettant du feu dans le magasin, ont cru que ça voulait dire, c'est-à-dire que chacun fait ce qui lui chante. Autonomie, ça veut dire que chacun s'impose sa propre loi. Et la loi, par définition, contient l'idée de la généralité ou de l'universalité. Pas que je m'impose à moi-même une loi, ça n'a pas grand sens. C'est parce que je me crée un langage de soi. Bon. Mais s'imposer sa loi, ça veut dire s'imposer des limitations. C'est-à-dire inventer, créer pour soi-même, poser des choses qui sont permises et des choses qui ne sont pas permises. C'est-à-dire s'auto-limiter. Et là, c'est la première question. Il faut comprendre l'énorme importance de cette question des limites qu'on rencontre aussi bien en psychanalyse que dans les questions les plus profondes d'une politique démocratique. Pour l'analyse, il n'y a pas de fin de l'analyse, alors fin au sens de la terminaison, mais aussi au sens de la visée justifiée, sans la compréhension de la part du sujet et de l'acceptation de la part du sujet de sa limitation essentielle, qui est bien entendu ce qu'on appelait depuis longtemps l'assomption de la castration, effectivement. Mais il faut aller plus loin. Freud disait « toute angoisse de mort est une élaboration de l'angoisse des castrations ». Je pense très profondément que la vérité est le contraire. Toute angoisse de castration est une élaboration de l'angoisse de mort. Parce que la castration, qu'elle soit réelle, imaginaire, symbolique, tout ce que vous voudrez, bon, porte atteinte non seulement à l'intégrité de l'individu, parce qu'il considère comme le point central de son intégrité ce sans quoi son identité est en danger de mort. Et quelle est la castration finale contre laquelle il n'y a aucune protection possible? C'est évidemment la mort. Donc il n'y a pas de fin d'analyse possible si le sujet n'accepte pas sa mortalité. Et c'est là, au plus profond, que lorsque les analyses échouent de manière interminable, c'est là-dessus qu'elles échouent ou qu'elles deviennent interminables. Je parle des cas, des bons cas, je ne parle pas des cas d'analystes incompétents ou des cas de patients qui sont de toute façon inanalysables ou bien de certains cas psychotiques. Bon. Mais ça, c'est aussi la pierre de touche et le fil de rasoir, on peut dire, d'une société vraiment démocratique, d'une société autonome. Fil de rasoir sur lequel elle marche. Parce que si la société, si une société autonome, si une société démocratique n'est pas capable de s'auto-limiter, personne ne peut le faire à sa place. Et inutile d'ajouter en plus que les constitutions sont très utiles et sont loin de fournir une garantie contre la folie humaine, n'est-ce pas? On peut toujours modifier une constitution ou on peut la violer si on fait l'historique. La statistique sur toutes les constitutions qui ont existé sur la Terre depuis qu'il y a des constitutions, je crois bien que 95% ont été constamment violés par des colonels, des lieutenants, etc. Bon, il y en a une qui a presque pas été violée, je crois, c'est la constitution américaine. Enfin, elle n'a pas été violée parce qu'elle a été aussi amendée, il y a eu aussi une guerre civile. À part ça, bon, c'est pas le même truc. Une société démocratique doit accepter sa limitation. Et sa limitation ne peut être qu'auto-limitation. Sans cette auto-limitation, elle courra à la catastrophe, comme d'ailleurs mutatisme mutandis, ça s'est passé à Athènes à partir de l'an 420 avant Jésus-Christ. Lorsque les Athéniens n'ont pas été contents d'avoir à peu près gagné la première phase de la guerre de Péloponnèse, mais ils ont aussi voulu aller conquérir la Sicile, etc., etc. Et là, ça a commencé la débandade. Alors, comme l'individu, et c'est peut-être plus difficile encore que pour l'individu, la collectivité démocratique doit accepter qu'il n'y a pas de source du sens autre que sa propre activité, que c'est son activité qui est créatrice de sens. Ce qui veut dire que ces institutions, c'est elles qui se les donnent, que donc elles ne sont pas données par une source extrasociale qui serait en même temps le garant du sens et la garantie de la norme. Les normes dans une société démocratique n'ont aucune garantie, et on peut même dire qu'elles n'ont aucun fondement autre que la volonté délibérée et réfléchie d'être autonome, de reconnaître l'autonomie de tous et de se donner, dans l'égalité, les mêmes possibilités de participer au public. Et ce n'est que dans la mesure où elle reconnaît cela qu'une société peut accepter la contingence ultime de toute signification et de tout sens que nous créons dans l'histoire, et comprendre que ses propres institutions, pour être contingentes, c'est-à-dire pour être créées par elles, pour pouvoir être changées, ne sont pas pour autant insignifiantes. Pourquoi ? Parce que ce sont précisément ces institutions qui sont les conditions de l'émergence et de la création du sens dans pas la société. Voilà. Alors, je pense qu'il y a là matière à discussion. Donc.
Alors, Cornelius Castoriadis à Beaubourg. Donc un peu avant sa mort dans les années 90 et voilà et comment dire il nous disait donc dans sur le site de, alors sur le site de le psychologue en résistance il y a un article psychanalyse et politique par Cornelius Castoriadis où il dit: la connaissance de l'inconscient ne peut-elle rien nous apprendre concernant la socialisation des individus, donc aussi des institutions sociales ? Pourquoi la perspective pratique, qui est celle de la psychanalyse dans le champ individuel, serait-elle automatiquement frappée de nullité lorsqu'on passe au champ collectif ? Il faut bien constater que ces questions ne sont que très rarement posées et jamais de manière satisfaisante. Fin de citation. Nous rappelons aussi que... il a existé quand même le courant freudo-marxiste dont nous aurons l'occasion de parler plus tard. Et puis, on peut rappeler aussi la position politique de Castoriadis, hein, qui est, là encore, c'est l'extrait de l'individu privatisé, le monde diplomatique de février 1998, où il dit: comment puis-je être libre si je vis dans une société qui est gouvernée par une loi qui s'impose à tous ? Point d'interrogation. Cela apparaît comme une contradiction insoluble et cela en a conduit beaucoup, comme Max Stirner par exemple, à dire que cela ne pouvait pas exister. Et d'autres, à sa suite, comme les anarchistes, prétendront que la société libre signifie l'abolition complète de tout pouvoir, de toute loi, avec le sous-entendu qu'il y a une bonne nature humaine qui surgira à ce moment-là et qui pourra se passer de toute règle extérieure. Cela est, à mon avis, donc écrit Castoriadis, une utopie incohérente. Je peux dire que je suis libre dans une société où il y a des lois, si j'ai eu la possibilité effective, et non simplement sur le papier, de participer à la discussion, à la délibération et à la formation de ces lois. Cela veut dire que le pouvoir législatif doit appartenir effectivement à la collectivité, au peuple. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. C'était L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et au passage, eh bien, on parle un peu de psychanalyse et de cette association, de cette espèce de mariage qu'on essaie qui a tenté d'être fait entre psychanalyse et politique. Et la question est-ce que cela a marché, a fonctionné ? Eh bien, nous en parlerons dans les prochaines émissions. Et maintenant, je vous propose la suite des programmes avec Un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
rayon de soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Ouzénus, oh, tu casses-tu.